Diane et Actéon. Extrait des Métamorphoses d'Ovide.
Il était une montagne pleine du sang des animaux tués. Le jour avait déjà réduit l'ombre des choses de moitié, le soleil étant à mi-course, lorsque, d'une voix douce, Actéon appela ses compagnons de travail en différents lieux dispersés.
Mes amis, nos filets et nos armes ruissellent du sang des fauves. Et la journée a été fructueuse. Lorsque l'aurore, portée par son char safrané, ramènera le jour, nous nous remettrons au travail. Le soleil, pour l'heure, est à son zénith, et ses exhalaisons craquellent les champs. Cessez votre travail, relevez vos filets noueux.
Les hommes obéissent et suspendent leur activité. Il y avait là une vallée, du nom de Gargafier, consacrée à Diane la Courvêtue, où pin et cyprès poussaient de rue. Tout au fond de cette retraite, une grotte sacrée qu'aucune main d'artiste jamais n'avait touchée. C'est la nature ingénieuse qui avait imité l'art, creusant une voûte naturelle à même la roche et le tuf lisse. À droite, chante une fontaine d'eau claire et transparente, et l'herbe borde son entrée évasée. C'est ici que la déesse des forêts, fatiguée de la chasse, venait souvent plonger son corps virginal dans l'eau pure. Après qu'elle fut entrée là, elle donna à sa nymphe écuyère son javelot, son carquois et son arc débandé. Elle fit glisser sa tunique qu'une deuxième ramassa. Deux autres la déchaussèrent et la plus experte d'entre elles noua en chignon ses cheveux épars autour de son cou. Les nymphes Néphélé, Yalé, Ranis, Psécas et Fialé allèrent puiser de l'eau qu'elles versèrent de leur grand vase. Pendant que Diane se douchait là comme à l'accoutumée, voilà qu'Actéon, qui s'offrait une pause et avançait sans but précis à travers ce bois inconnu, parvint au lieu sacré. Le destin en avait ainsi décidé. À peine fut-il entré dans la grotte aux eaux ruisselantes, qu'à la vue de cet homme, les nymphes, qui étaient nues, se frappèrent la poitrine et emplirent le bois entier de hurlements soudains. En cercle autour de Diane, elles la protégèrent de leur corps. Or, la déesse, plus grande qu'elles toutes, les dépasse d'une bonne tête. « comme se colorent les nuages frappés de plein fouet par le soleil, comme l'aurore vêtue de pourpre, ainsi se colora le visage de Diane, surprise, sans vêtements. Bien que le groupe de ses suivantes se serra autour d'elle, elle se pencha de côté, détourna la tête, et n'ayant pas à portée de main les flèches qu'elle eût voulu, elle puisa de l'eau et la jeta au visage du jeune homme. Pendant qu'elle inondait ses cheveux de cette eau vengeresse, elle ajouta ces mots, présage du malheur qui l'attendait.
Va donc maintenant raconter que tu m'as vu sans voile, si tu le peux.
Et sans autre menace, elle pose sur la tête inondée les ramures d'un cerf fougueux. Elle allonge son cou et taille en pointe ses oreilles. Change ses mains en pieds, ses bras en longues pattes et couvre son corps d'une peau tachetée. Elle y ajoute la panique. Le héros Actéon prend la fuite et tout en courant s'étonne de sa célérité. Sitôt qu'il aperçoit ses cornes dans les eaux familières, il va pour s'écrier.
« Pauvre de moi !»
Mais il reste sans voix. Il gémit. Voilà tout son langage. Et ses larmes coulent sur une face inconnue. De naguère, seul lui reste la pensée. Que faire ? Rentrer chez soi, dans le palais royal, ou se cacher dans les forêts ? De ceci, il a peur. De cela, il a honte. Pendant qu'il hésite, ses chiens l'ont aperçu. Et d'abord, Mélampus et le sagace Harpalos l'ont signalé en aboyant. D'autres accourent plus vite qu'un vent impétueux. La meute, que cette proie excite, dévale à travers rochers, éboulis, rocailles impraticables, là où le chemin est difficile. Lui, il fuit, sur les lieux mêmes où il avait été tant de fois poursuivant. Hélas, il fuit ses propres serviteurs, voulant crier.
« C'est moi, Actéon. Reconnaissez votre maître. »
Sa volonté n'a plus les mots. Les aboiements résonnent dans l'air. Mélampus est le premier à déchirer son dos, suivi par Térydamas. Harpalos reste accroché à son épaule. Partis plus tard, ils ont pris un raccourci à travers les montagnes. Tandis qu'ils retiennent leur maître, toute la meute fait masse et leurs crocs se plantent dans son corps. Il n'y a déjà plus d'endroit où le mordre. Il gémit. Et le son qu'il émet, s'il n'est pas d'un humain, n'est pas non plus celui d'un cerf. Il remplit ses hauteurs connues de cris funèbres. Et les genoux fléchis, suppliant comme un homme qui prie, il tourne en tous sens ses pattes et son visage muet. ignorant tout. Ses compagnons encouragent et excitent, comme d'habitude, la troupe déchaînée. Il cherche des yeux Actéon et appelle sans relâche le faux absent.
Actéon !
Celui-ci tourne la tête à son nom. Et il déplore son absence et sa paresse à venir voir le spectacle d'une proie capturée. Comme il voudrait être ailleurs. Mais il est là. Comme il voudrait voir, plutôt qu'éprouver, la sauvagerie de ses chiens. Il l'encercle et, enfouissant leur gueule dans son corps, déchiquette, sous l'apparence d'un cerf, leur propre maître. Ce fut seulement lorsque tant de blessures eurent mis fin à sa vie que fut rassasiée, dit-on, la colère de Diane aux Carquois.